la prospérité. C'est moi qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Je suis celui qui ferme les portes et personne ne peut ouvrir. Oui, je décide d'abandonner ta vie dans la main du Seigneur, car c'est moi qui veux diriger ta vie. Je ne veux plus que les circonstances te dirigent, mais je veux diriger ta vie. Laisse-moi ta vie entre mes mains, dit le Seigneur, car je suis celui qui règne. Alléluia.
Oui, Seigneur, on le reconnaît que tu es présent au milieu de nous. On est reconnaissant, Seigneur, de l'œuvre que tu fais, de parler à nos cœurs, puis de nous enseigner, puis de nous montrer le chemin, afin qu'on y marche d'une manière de plus en plus fidèle. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu fais au milieu de nous. Oui, apprends-nous, Seigneur, à te louer. Apprends-nous, Seigneur, à élever notre voix pour glorifier ton nom. Apprends-nous, Seigneur, à s'en remettre à toi, comme tu l'as dit aussi par Gabriel, à s'en remettre à toi pour qu'on puisse te faire confiance, te voir agir dans nos vies, parce que tu es là, tu es présent dans les circonstances. Oui, Seigneur, prends tout. Prends ma vie, prends mes frères et sœurs, et continue ton œuvre ce matin au milieu de nous, dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Alléluia. C'est toujours une joie pour moi de venir dans la présence du Seigneur, puis venir parler de sa parole. Je ne sais pas si c'est toujours une joie pour vous de l'entendre, ou de m'entendre. Mais c'est une bénédiction qu'on a de pouvoir se réunir tout ensemble. Comme on l'a déjà dit, il y a des pays qui ne le peuvent point. Et nous, on a une grâce spéciale de pouvoir avoir la liberté de s'approcher. C'est avec joie qu'il faut courir dans la maison de l'Éternel pour venir lui rendre un culte de louange, parce que Dieu agrée les louanges, mais aussi parce qu'il veut nous fortifier, il veut qu'on nous apprendre à s'en remettre à lui, il veut nous communiquer ses directives. Et directive pour son peuple ici ce matin. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu vas faire. Et ce matin, le titre du message, c'est « On va apprendre à... » Ben, c'est sûr que c'est toujours des choses qu'on a déjà apprises, qu'on a déjà entendues, sauf que quand on les ramène dans un sujet complet, là, sur ce point-là, ça va stimuler notre cœur à vouloir davantage servir le Seigneur, parce qu'on sait que le Seigneur aime des choses qu'on fait dans notre vie. Là, je ne parlerai pas des choses qu'il n'aime pas, mais je vais parler des choses qu'il aime. Puis on va apprendre ce matin ce que Dieu prend plaisir. Tous ceux qui sont mariés, qui ont des conjoints, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous arrêter et d'écouter ce que l'autre dit afin de savoir peut-être quelque chose de plus de ce que ce conjoint, notre conjoint, ou même notre parent, ou celles qui sont proches, de connaître ce que ces personnes-là puissent aimer? Ça vous arrive-tu d'écouter puis de dire, là, « Ah, oh, elle a de l'air aimer ça, cette affaire-là. » Puis que, ou lui, il a de l'air aimer ça quand je fais ça ou quand je dis ça. Puis en réalité, c'est normal quand on veut faire une relation de couple qu'on doit s'arrêter à écouter ce que l'autre aime. Pourquoi? Mais par la suite, pour le pouvoir en faire de temps en temps des choses que l'autre aime. Ça devrait être plus que même de temps en temps, ça devrait être à tous les jours qu'on fait des choses que l'autre aime. Et à ce moment-là, quand on fait des choses que l'autre aime, bien, ça ne peut pas faire autrement que de fortifier notre vie de couple. Que les deux cherchent à faire des choses mutuellement que les deux aiment, puis que là, la vie de couple devient de plus en plus solide. Et tiens, amen à ça. C'est ce que Dieu s'attend de chacun de nous. Il veut qu'on apprenne à connaître ce que lui aime, afin d'arriver à faire des choses que lui aime, puis en retour, on va en être béni de cela. Savez-vous qu'il y a des choses que Dieu aime, puis il y a des choses que Dieu aime pas? Des fois, là, on entend des messages, puis on reçoit plein d'instructions, mais des fois, on en oublie, puis on retourne dans notre semaine, puis on bâtit notre vie encore comme qu'elle était avant. Il y a quelque chose, je pense que ce matin, il faut s'arrêter, puis le dire, il y a plein de points qui vont être annoncés que Dieu aime ces choses-là. Ça vaudrait peut-être même la peine qu'on les prenne en note, parce que ça va être basé sur des passages de la parole de Dieu. Puis si je commence à appliquer ces choses-là dans ma vie, elle va être agréable à Dieu. Ma vie, elle va faire plaisir à Dieu. Quand Dieu va me regarder, il va être content de me voir dans cette situation-là, en train de faire ces choses-là, parce que je le sais qu'il aime ça, puis quand je vais les mettre en pratique, je vais réjouir son cœur. Daniel a parlé, il y a 2 semaines, sur Romains 12 qui dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Oups! Quand j'offre mon corps en sacrifice à Dieu, c'est un sacrifice vivant, c'est un sacrifice saint, mais c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Dieu prend plaisir de voir qu'il y a des gens quelque part qui veulent s'offrir en sacrifice pour le suivre, pour le servir, pour mettre en pratique ce que lui veut. C'est quelque chose qui lui fait plaisir. Puis ça nous dit dans ce passage-là que c'est une chose, un culte raisonnable. C'est juste quelque chose de normal, de raisonnable, que les gens puissent se donner à Dieu pour marcher d'une manière qui lui plaît. D'être un sacrifice saint qu'on cherche à sanctifier. Puis lui, il agrée ces choses-là. Il est content de voir ça. Mais il dit, faites attention, là, conformez-vous pas à la manière de vivre du monde selon le siècle présent. Parce qu'eux autres, ils connaissent pas ça, c'est quoi être agréable à Dieu. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence pour qu'on arrive à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour Dieu. Si je veux marcher d'une manière qui plaît à Dieu, si je veux marcher d'une manière qui lui est agréable, à quelque part, je dois arrêter de penser qu'il faut que je vive comme tout le monde, puis je dois aller chercher, puiser les points que il va changer mon intelligence avec ces points-là, puis là, je vais commencer à vivre une vie de transformation, une vie changée, puis là, je vais vivre comme lui, il veut, puis là, je vais lui être agréable. Il est très important qu'en tant que personne sauvée, que nous arrivions à discerner ce qui plaît à Dieu. Parce que si on continue à marcher comme qu'on était avant, on ne plaira pas à Dieu. Il dit le processus là, de transformation de notre intelligence, il est graduel, parce qu'il dit on va discerner ce qui est bon, on va discerner ce qui est agréable, on va discerner ce qui est parfait. Plus que ça va aller, plus qu'on va comprendre, puis plus que notre vie va se conformer à ce que lui demande. Plus que nous allons apprendre à connaître Dieu et sa volonté, plus que notre intelligence est transformée et renouvelée, et notre vie va être changée. Ça fait partie du processus de croissance de la vie chrétienne. La parole de Dieu nous est laissée pour qu'on la reçoive, qu'on l'accepte, qu'on soit changé dans notre esprit, qu'on soit changé dans notre cœur et qu'on soit changé aussi dans notre vie de tous les jours. En autant qu'on est prêt à vouloir se faire changer. Je pense que tout ça se passe en premier dans notre tête, puis ensuite ça passe dans notre cœur. Parce qu'être renouvelé dans notre intelligence, ça parle premièrement dans notre compréhension, dans notre manière de penser, dans notre manière de voir les choses. On doit commencer premièrement à être changé ici, en connaissant, en apprenant le plan de Dieu. C'est là qu'il est important d'être fidèle aux réunions, afin que le Seigneur nous transforme par l'enseignement, puis même par la puissance de la parole de Dieu. Parce que c'est une puissance, la parole de Dieu. Ça sauve des âmes, puis ça transforme des vies, ça régénère. La Bible nous dit qu'on est régénéré non par une semence incorruptible, on est régénéré par la présence de Dieu, mais aussi la puissance de sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance qui régénère. Ça transforme les gènes. Quand ça régénère, c'est que quelque chose qui est régénéré, c'est quelque chose qui est en train de mourir. Puis là, quelque part, tu y injectes quelque chose, puis ça le régénère, ça le reconstruit, ça le rédifie, puis ça le transforme pour que ça soit de plus en plus fort, de plus en plus solide, de plus en plus beau. Mais être régénéré par Dieu, c'est ce que Dieu veut faire par l'entremise de sa parole. Nous régénérer par sa semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Y a-tu des amen à cela? Un enfant de Dieu devrait être toujours en train de rechercher ce qui est agréable à Dieu. En Éphésiens 5:10, ça dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Quand on dit d'examiner, mais c'est chercher à comprendre. Quand tu examines, tu peux regarder une chose en te passant les yeux dessus, puis là, tu n'as rien examiné, tu as juste vu que c'était là, mais tu n'as pas examiné. Mais quand tu examines, c'est que tu prends l'attention sur la chose que tu veux comprendre, puis là, tu regardes, tu examines, tu sondes, tu vérifies, tu étudies. Examiner, c'est de prendre une attention sur les choses. Mais examiner ce qui est agréable au Seigneur, ça devrait être dans le cœur de chacun de nous, de vouloir connaître c'est quoi qui plaît au Seigneur. C'est quoi qui pourra faire plaisir au Seigneur? C'est quoi que Dieu va trouver agréable? C'est quoi que Dieu aime? Puis si on est motivé de cet élan-là, on va être béni de la part de Dieu en mettant ces choses en pratique, parce que Dieu va déverser, parce qu'il va nous regarder, puis il va être content de nous voir aller. C'est vrai que le salut, pour accepter Jésus, il n'y a pas de part de notre part. On ne mérite rien en partant. Quand la grâce de Dieu nous est présentée, c'est un cadeau qui nous est offert de devenir chrétien, d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel. C'est un cadeau qui nous est donné et qu'on le saisit par la foi. On ne mérite rien dans cette action-là, sauf que de l'accepter. Sauf que quand tu es devenu chrétien, tu dois t'efforcer dans ta conduite à rechercher ce qui est agréable au Seigneur afin que ta vie plaît au Seigneur. Puis là, tu t'attires les faveurs de Dieu dans ta vie. L'apôtre Paul avait compris cela, puis lui-même, il priait pour tous les frères afin que tous comprennent le plan de Dieu et que tous marchent d'une manière qui soit agréable à Dieu. Dans Colossiens 1:9 qu'on voit cela. Il dit, c'est pour cela, nous aussi, depuis le jour que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes, en toutes sortes de bonheur, puis croissant par la connaissance de Dieu. On va croître par la connaissance de Dieu. Puis il dit, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça commence dans notre esprit, dans notre intelligence. Connaître c'est quoi que Dieu aime. Puis après ça, par sa connaissance que je vais recevoir, je vais commencer à produire, à marcher d'une manière qui est digne du Seigneur, puis c'est d'une manière qui est agréable au Seigneur. Mais l'apôtre Paul comprenait que le processus venait que, premièrement, il fallait que tu comprennes c'est quoi qui plaît au Seigneur, puis lui, il dit, je prie le Seigneur continuellement pour qu'il vous donne de l'intelligence spirituelle, pour vous compreniez quel est le plan de Dieu dans votre vie, puis que vous soyez transformés pour arriver à vivre une vie qui est digne du Seigneur, à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Quand on vient, quand il y a un passage qui parle, je pense que c'est Paul qui dit ça, il dit, ce que je trouve de valeur quand vous vous réunissez, c'est non pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Dans cette église-là, ils devenaient pire quand ils se réunissaient. Mais est-ce que dans notre cœur, notre désir, c'est de se réunir pour devenir meilleur? Pour apprendre à connaître c'est quoi que Dieu aime, puis que là, une fois qu'on le connaît, qu'on cherche à l'appliquer à notre vie pour qu'on plaise davantage au Seigneur. Si c'est ça, le Seigneur va le faire, son œuvre, puis on va le devenir meilleur, puis on va marcher, on va être d'une agréable odeur à l'Éternel. Quand il offrait des sacrifices à Dieu dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices d'une agréable odeur. Mais ça, c'était pour donner un exemple à notre sacrifice d'aujourd'hui, qui est la part de notre vie sacrifiée comme un sacrifice vivant pour devenir saint. Ça va être agréable à Dieu. Ça va être un sacrifice d'une agréable odeur. Quand Dieu va venir à Châteauguay nous visiter dans nos réunions, ça sent bon ici. Ça me plaît. J'aime ça être là. Ça sent bon. Hallelujah! Savez-vous que le Seigneur, quand il a créé la création, quand il a créé le ciel, la terre et toutes les formes de vie, puis qu'il a placé Adam et Ève dans cette création-là, Dieu s'attendait à trouver du plaisir dans cette création-là, puis il s'attendait à recevoir une certaine satisfaction de cette création-là. Il n'a pas créé ça dans le but pour que ça y aille mal, puis que là, il dise « arrangez-vous avec vos troubles », puis que là, s'arranger que ça y aille encore plus mal. Non! Quand Dieu a créé toute chose, en Genèse 1:31, ça nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Puis là, il y a un soir et un matin. Dieu vit ce qu'il avait fait, puis il a dit, c'était très bon. C'était pas juste bon, c'était très bon. Il trouvait une satisfaction dans sa création. Il était content de voir comment que c'était fait, puis tout ce qui était pour se produire, ça lui plaisait. Quand on parle du mot « très », là, ça dit « beaucoup », tellement, fort, grand, considérable, c'était profond, à l'infini, c'était énorme, c'était plein. Ça, c'était le sens du mot « très bon ». C'était à l'infini bon, c'était énormément bon, c'était tellement bon, c'était fort comme bonté. Quand Dieu a pris, il a dit que c'était très bon. Il était content d'avoir fait ce qu'il avait fait. Le mot bon, mais il dit c'est bien, c'est beau, ça plaisait, c'était favorable, c'était agréable, c'était le bien-être, c'était excellent, c'était le meilleur. Quand Dieu dit c'était très bon, imaginez ça au maximum que ça lui plaisait. Bien sûr, c'est avant la chute. À cause que le péché est entré dans le monde, la dégénération l'a accompagné au point que le Seigneur était dégoûté de ce qu'il voyait puis qu'il en a mis un terme. Ça, c'est le malheur qui est arrivé au début de la création. Dans Genèse 6, ça dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre puis il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, et je me repens des avoir fait. Mais l'Éternel était affligé dans son cœur. Après avoir vu la beauté, la merveille de cette création dans laquelle il prenait plaisir, quand il a vu que le péché est entré et que la corruption est entrée, ça l'affligeait. Ça lui a fait de la peine. Il était désolé. Il était attristé. Il était blessé de ça, de voir comment il s'était rendu, puis il ne pouvait plus laisser ça de même. Les pensées des hommes étaient uniquement vers le mal. La méchanceté était grande sur la terre. Le Dieu a décidé d'en mettre un terme. Mais, il y avait un homme qui plaisait à Dieu. Dans Genèse 6, 8, 9, ça dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Être intègre, être juste, selon la Bible, c'est de marcher avec Dieu. Ça, c'est de marcher de manière qui lui est agréable. Ça, c'est une manière que Dieu aime, puis c'est une manière qui nous amène la bénédiction de Dieu dans notre vie. Ça l'a amené Noé, parce qu'il marchait avec Dieu, puis il marchait de manière agréable, ça l'a amené Noé à être épargné du jugement qui était sur toute l'humanité. C'était comme un petit rayon d'espoir dans le cœur de Dieu de voir qu'il y avait une personne qui craignait son nom et qui marchait avec lui. Cette personne-là marchait avec lui, puis Dieu l'a déclaré, « T'es un juste, t'es un intègre, je prends plaisir dans ta voix. » Dans toute l'histoire, par la suite, Dieu s'est cherché un peuple dans lequel il prendrait plaisir. Puis quand il a trouvé Abraham, Genèse 15, 6, ça nous dit qu'Abraham crut en l'Éternel, puis il lui imputa à justice. Quand Dieu a vu qu'Abraham croyait en lui, qu'Abraham faisait confiance en l'Éternel, Dieu a déclaré, « T'es un juste. » Dieu aimait la conduite de Noé, Dieu aimait la conduite d'Abraham, parce que les deux marchaient avec Dieu, les deux craignaient Dieu, les deux marchaient par la foi. Puis Dieu a commencé à trouver du plaisir dans certaines personnes, dans ceux qui avaient la foi en lui. Dans Hébreux 11, 6, ça nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Mais ces personnes-là avaient la foi en Dieu, ça plaisait à Dieu. Malgré la méchanceté qui les entourait, malgré l'égarement des gens autour, que les gens étaient tournés uniquement vers le mal, uniquement vers des faux dieux, eux, ils marchaient avec Dieu, ils étaient intègres dans les voies de Dieu, puis ils plaisaient à Dieu. C'est des hommes de foi. Ils s'étaient approchés de Dieu par la foi, puis Dieu agréait ce genre de personnes. Le Seigneur était content. Le Seigneur a fait une alliance avec Abraham, puis lui a donné la promesse de faire un peuple nombreux de sa descendance, puis Dieu s'est choisi un peuple dans lequel il placerait son nom. Quand il a vu la fidélité d'Abraham, il a donné des promesses, il a fait une alliance avec, puis il dit, « Je vais faire sortir de toi une multitude de peuples, mais en particulier un peuple qui va recevoir la bénédiction parce que ça, déjà dans leur attente, ils attendaient un Messie, puis c'était promis que c'était à travers d'Abraham. Puis Dieu, il voulait choisir un peuple qui porterait son nom, puis dans lequel il prendrait plaisir, puis il a choisi de le faire à travers d'Abraham. Il y a eu Isaac, il y a eu Jacob. Jacob a eu 12 enfants. C'est devenu les 12 tribus d'Israël, les Juifs qu'on connaît. C'était le peuple choisi de Dieu, dans lequel Dieu voulait prendre plaisir. Dieu voulait se révéler à ce peuple-là. Il voulait manifester des miracles, des signes, comme qu'il ne s'en est jamais fait ailleurs. Parce que Dieu aimait Abraham, puis il a confié ses promesses-là, puis ce peuple-là a été choisi. Mais le peuple juif faisait toujours des choses qui déplaisaient au Seigneur, puis ils ont été rejetés. Hébreux 12, 8, verset 8 à 12, ça dit, « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu est en train, dans ce passage-là, de dire qu'il est en train de traiter une nouvelle alliance avec son peuple. Parce qu'il dit que la première alliance ne se sont pas souciés d'obéir à ma parole. Ils ont abandonné mes prescriptions, ils ont abandonné mes lois. Ils vivaient tout croche, puis ça me déplaisait. Ils ne se sont pas souciés de moi, et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Mais dans ce passage-là, Dieu nous parle qu'une nouvelle alliance qui se base dans une relation personnelle avec lui. Le verset 10, ça nous dit qu'il serait leur Dieu, puis qu'eux autres seraient son peuple, puis que Dieu lui-même interviendrait pour écrire ses lois dans leur esprit et dans leur cœur. Cette nouvelle relation-là, cette nouvelle alliance-là était dans une relation intime avec chaque personne. Puis c'était ouvert à tous, petits et grands. La Bible nous dit que tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Dieu était prêt à faire une alliance, peu importe l'âge. Faire partie de mon peuple dans cette nouvelle alliance-là, tu vas faire partie de mon peuple, je vais être ton Dieu, tu vas être mon peuple. C'est une relation d'amour puis d'attachement de Dieu envers son peuple, puis de son peuple envers son Dieu. Puis de cette relation découle le plaisir de Dieu de renouveler puis de transformer son peuple en y gravant ses paroles dans leur cœur. Dieu, dans cette nouvelle relation-là, il prend plaisir à vouloir s'occuper de chacune de ses brebis. Dans cette nouvelle alliance-là, Dieu veut prendre le temps de s'occuper de chaque personne individuellement. Tous ceux qui veulent marcher en contact avec lui, Dieu va s'occuper de lui. Cette personne-là va devenir son peuple. Puis cette personne-là qui reçoit de Dieu, il va pouvoir dire, « Tu es mon Dieu. » Puis de là, Dieu va prendre plaisir à sa vie, puis Dieu va prendre son temps à écrire ses paroles dans son intelligence et dans son cœur. Quand on disait tout à l'heure d'être renouvelé dans notre intelligence, c'est la première étape. Il faut que ça passe ici, qu'on accepte les vérités de la parole de Dieu, qu'on les reçoive, qu'on dise « Oui, je veux cette chose dans ma vie ». C'est là que Dieu écrit dans notre esprit, dans notre intelligence. Après ça, il dit « Je vais l'écrire dans leur cœur ». Ils vont avoir à cœur de mettre en pratique ce que je lui mets dans leur esprit. Puis là, notre vie va être renouvelée et transformée, puis qu'on va marcher d'une manière qui est agréable en le vivant. Le cœur de ce peuple est ouvert à laisser Dieu graver ses paroles afin d'y mettre en pratique. Sur le cœur de ce peuple, en parlant du peuple de la nouvelle alliance que Dieu veut faire, c'est un cœur qui est ouvert à vouloir que Dieu vienne y écrire ses paroles. Parce que Dieu est prêt à faire une alliance, il est prêt à faire sa part, mais il s'attend que nous autres on fasse la nôtre. C'est quoi la nôtre? Il faut être ouvert à ce que Dieu l'écrive, sa parole, dans notre esprit et dans notre cœur. Si on entend des messages qui sont annoncés, puis on dit non, ça c'est pas pour moi. Oh non, ça c'est pas dans le temps des apôtres. Oh ça c'est pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'œuvre qui va se faire. Puis c'est à se demander si vous devriez vous remettre en question pour savoir si vous êtes vraiment dans la nouvelle alliance. Parce qu'une alliance, ça se fait à deux personnes. Un qui propose, puis l'autre qui accepte. Quand les deux marchent ensemble, là, ça va bien. Mais s'il y en a un des deux qui rompt l'alliance, là, ça marche pas bien. Dieu se propose de commencer un œuvre, puis à écrire ses paroles dans notre esprit, puis dans notre cœur. Mais il faut l'accepter, puis il faut vouloir que ça se fasse. Puis dans ce passage, on peut même comme sentir le plaisir de Dieu dans cette nouvelle relation. Parce qu'il voyait que c'était pas bon, les autres alliances. Mais il était prêt à en offrir un autre, puis il trouvait du plaisir là-dedans. Le véritable peuple de Dieu, il aime, puis il écoute les paroles de Dieu. Dans 1 Jean 4, il dit, « Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là qu'on peut connaître l'esprit de la vérité puis l'esprit de l'erreur. » S'il y en a qui disent, « Ah, ben moi, j'écoute la parole, mais ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, je veux rien savoir de ça. » Puis ils pensent être dans l'alliance, ils font fausse route. Parce que celui qui est avec Dieu a l'Esprit de Dieu et écoute les paroles de Dieu. Et quand les prédications sont faites par des enseignants ou des pasteurs, peu importe, ou quelqu'un qui amène la parole de Dieu, l'autre va dire, oui, je crois à ce que tu dis, puis oui, je veux le vivre. Ça, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de vérité. Si une personne dit, moi, ça m'intéresse pas, c'est par là qu'on sait s'il y a l'Esprit de vérité ou l'Esprit de l'erreur. Sommes-nous prêts à écouter ce que Dieu a à dire? Dieu prend plaisir à l'obéissance. Dieu prend plaisir à l'obéissance. 1 Samuel 15, 22, il dit, Samuel, il dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses du bélier. Dieu prend plaisir à l'obéissance de sa voix. » Quand on entend la voix de Dieu qui nous dit quelque chose, qu'on entend par un message ou qui nous dit directement, Dieu prend plaisir quand les gens obéissent. Il dit, ça a plus de valeur que tous les sacrifices que vous allez offrir. Quel est notre degré d'obéissance? Avons-nous déjà évalué ça face à la parole de Dieu? C'est quoi mon degré d'obéissance? Est-ce que mon cœur est sensible à sa voix? Parce que dans la parole, il dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Quand on est sa brebis, on entend sa voix et on suit Jésus. Dans Actes 28, 27, il dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur oreille, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Dieu veut qu'on soit prêt à obéir et à recevoir sa parole parce qu'il aime ça. Puis d'un autre côté, il y a des gens qui sont devenus insensibles, ils n'entendent même plus sa voix, puis ils se ferment les yeux pour pas la voir, puis ils se ferment les oreilles pour pas l'entendre. Ils s'empêchent de se convertir, de se tourner vers Dieu puis de mettre en pratique, puis ils s'empêchent d'être guéris par Dieu. Parce que ça nous dit de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le fait de se fermer les yeux puis les oreilles à la parole de Dieu, on est en train de se fermer les yeux à la guérison de Dieu dans notre vie. Sommes-nous prêts à devenir obéissants puis à faire ce que Dieu aime? Là, on va en voir quelques points qui font plaisir à Dieu. Puis en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si vous faites partie de son peuple ce matin, moi je le crois, vous le faites partie, mais Dieu va sonder votre cœur puis va voir si vraiment vous voulez recevoir sa parole et la mettre en pratique. Le cœur de Dieu, il est rempli de joie lorsqu'un pécheur se repent. Dans Luc 15, 10, ça dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Chaque fois que quelqu'un vit croche dans sa vie, que ce soit un pécheur qui appartient à Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, que ce soit quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, chaque personne qui décide d'abandonner la voie de péché puis retourne vers Dieu, ça fait de la joie devant les anges de Dieu. Qui est devant les anges de Dieu? C'est Dieu lui-même. Son cœur est rempli de joie quand il voit les personnes se convertir, se détourner de leur péché puis se tourner vers lui. Ça fait plaisir à Dieu quand on abandonne le péché. Fait que Si on considère notre vie, si je vois qu'il y a du péché dans ma vie et que je l'abandonne, je peux être sûr que je suis en train de faire plaisir à Dieu. Et je réjouis son cœur. Dieu prend plaisir en son peuple, puis il va en chercher d'autres parmi les malheureux pour les amener à intégrer son peuple. Il dit, psaume 149,4, « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, puis il glorifie les malheureux en les sauvant. » Dieu veut sauver les malheureux. Il veut aller chercher ceux qui ont de la misère, ceux qui ont de la peine. Puis Dieu prend plaisir à son peuple, puis il en rajoute d'autres dans son peuple en les sauvant, ces malheureux-là. Ça réjouit le cœur de voir les gens se détourner, mais ça réjouit le cœur quand que Dieu voit son peuple en train de marcher ensemble. On voit, il y a plein de passages, on voit, ouais, c'est excitant. Dieu prend plaisir de nous voir marcher dans ses voies. Il veut nous renforcer pour y marcher davantage. Psaume 37, 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme, puis il prend plaisir à sa voie. Dieu prend plaisir de voir ses disciples marcher dans ses voies, puis il dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Il va les rendre plus forts, plus fermes, plus bouillants, plus saints, plus agréables. Dieu va faire un œuvre dans nos vies en autant qu'on laisse graver ses paroles dans notre esprit puis dans notre cœur. Il va faire un œuvre, on va marcher de manière qui est agréable, ça va y faire plaisir. Dieu prend plaisir à ça, puis il va nous fortifier. Le Seigneur est dans la joie quand il voit ses disciples s'investir dans les talents qu'ils ont reçus pour son œuvre. Quand on parle des talents, ça vous rappelle toujours la parabole des talents. Il y en a eu qui en a eu cinq, l'autre en a eu deux, l'autre en a eu un. Puis il y avait celui qui en avait cinq puis deux, ils ont mis en œuvre. Ils ont mis en pratique le talent, puis leur vie a augmenté en capacité, puis il t'a rendu au double de talent quand le Seigneur est revenu les visiter. Puis il y en a un qui avait enterré son talent. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ceux qui avaient fait fructifier le talent? Il leur dit, son maître lui dit, ça c'est dans Matthieu 25, 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Rentre dans la joie de ton maître. » Quand tu es fidèle à mettre tes dons au service de Dieu, à mettre tes capacités au service de Dieu, ta vie va se multiplier, Dieu trouve ça agréable, puis quand il va venir te chercher, lui, son cœur est rempli de joie de voir que tu t'es donné à son service, il dit « Rentre dans la joie de ton maître ». Ça va faire plaisir à Dieu de nous communiquer sa joie, puis de nous bénir en retour, parce qu'on a remis nos talents à son service. Et tiens, amen à quelque part. Vous n'avez tous reçu des talents de la part de Dieu. Vous avez tous le devoir de mettre en pratique les talents que vous avez reçus. Puis plus que vous allez être fidèle dans les choses qu'il vous a demandées, plus vos capacités vont augmenter, plus vous allez être capable de faire davantage de services pour le Seigneur, puis plus que vous réjouissez le cœur de votre maître, quand Jésus va venir vous chercher, vous allez être béni de sa joie qui va déverser, vous allez rentrer dans la joie de votre maître. Alléluia, merci Seigneur. Jésus fut rempli de joie lorsqu'il a vu les 70 disciples être excités comme des enfants lorsqu'ils sont revenus de leur première sortie d'évangélisation. Les 70 revinrent avec joie. « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur a dit, « Réjouissez-vous pas que les démons sont soumis, réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le ciel. » Puis ça nous dit, tout de suite dans le passage après, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Puis il dit, je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses à des enfants. Ça a fait plaisir au cœur du Saint-Esprit, puis ça l'a rempli, Jésus, de la joie. Parce que le Saint-Esprit a tressailli de joie. Quand il voit qu'il y a des gens qui sont excités, quand on revient d'avoir évangélisé quelqu'un le soir, on est content, on a dit, hey, le Seigneur a permis qu'une porte se roule, puis on a semé la parole. On est excité. Mais le Seigneur aussi, son cœur est excité de vous voir excité. Ça réjouit son cœur, puis il est content de voir ça. Il va vous le remettre. Alléluia. Dieu trouve ça agréable aussi quand il voit quelqu'un qui prie pour le salut des autres. Dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand on intercède pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, quand on embarque dans la prière, dans l'intercession, dans les supplications, à prier pour tous ceux qui nous entourent, il dit ça, c'est bon et agréable devant Dieu. Parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voulez plaire à Dieu? Ça vous en donne des trucs. Dieu se recherche des gens qui intercèdent. Il dit dans Ézéchiel 22:30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Mais Dieu recherche, quand tu recherches, parce que c'est de quoi qui t'intéresse, ça fait plaisir à Dieu, puis ça l'intéresse de voir que des gens qui sont en train de prier pour leur pays, pour les personnes dans leur pays, afin que Dieu ne châtie pas le pays, qu'il ne détruise pas le pays, parce que faut pas se cacher. Autant que Dieu prend plaisir en son peuple, en ceux qui font partie de son alliance, Dieu est en colère contre tous ceux qui se rebellent à sa parole et qui n'obéissent pas. Il y a un passage qui nous dit, « Ceux qui croient au Fils ont la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Quelqu'un qui est rebelle devant Dieu à sa parole, ça déplaît à Dieu, puis Dieu est en colère. La colère est sur toutes les gens de Châteauguay, toutes les gens qui nous entourent. Il ne faut pas se le cacher. Mais Dieu cherche quelqu'un qui élève un mur, puis qui prie, qui intercède pour les gens afin que Dieu ne détruise pas le pays, puis que Dieu amène sa bénédiction, puis que Dieu sauve ces hommes-là, puis ça, Dieu s'en charge de ça, puis Dieu trouve ça bon et agréable. Parce que Dieu ne veut pas que ces gens-là reçoivent la colère, Dieu veut que ces gens-là soient sauvés. Dieu trouve agréable ceux qui marchent avec piété puis avec crainte. Hébreux 12, 28. Il dit, c'est pour ça, en recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Quand on arrive au Seigneur, des fois, on entend, Dieu, c'est notre ami, puis c'est notre chum, puis on devient bien léger dans notre expression envers Dieu. On vient comme bien intime, puis on s'exprime des fois comme si on n'avait pas de respect ou qu'on se pensait, on n'avait pas de crainte envers Dieu, qu'on se fout quasiment, on parle quasiment d'une manière effrontée devant Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu, lui, veut qu'on marche avec crainte et tremblement. Dieu veut qu'on marche à lui offrir un culte avec piété et avec crainte parce que Dieu est Dieu. C'est le Créateur de l'univers. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui se trouve, mais c'est lui qui a créé le monde invisible. C'est lui qui a créé toute chose. La Bible, nous autres, on regarde la création, puis ça a l'air, c'est immense la création. On ne voit même pas la fin de tout l'univers, tellement que nos télescopes puissants, puis les satellites, on ne voit même pas la fin. La Bible, elle nous dit que les cieux des cieux sont pas assez grands pour contenir Dieu. La Bible a dit que toutes choses ont été créées en lui. Fait que Dieu est au-dessus de toute cette création, puis il est plus grand, puis il est plus gros que tout ça. C'est tout créé en dedans de lui, puis il maintient tout ça en existence par sa puissance. Qu'est-ce qu'on est, nous autres, pour penser que Dieu, on pourrait le devenir tellement friendly que là, on méprise sa grandeur puis sa puissance. Quand les disciples ont monté sur la montagne puis ont entendu la voix, celui-ci, quand Jésus s'était transfiguré, les disciples ont entendu la voix du Père, ont entendu sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand ils ont entendu cette voix-là, les disciples, qui étaient bien proches avec Jésus, ils étaient avec à tous les jours. Ils ont tombé sur leur face dans la crainte, dans la peur, parce que c'était trop effroyable d'entendre la voix de Dieu. Puis ça, c'était juste une manifestation simple de sa voix. Je suis sûr, si Dieu lâcherait un cri, il n'y a plus rien qui existe dans tout l'univers. Il y a juste à dire un seul petit mot, il n'y a plus rien qui existe. Tandis qu'il a juste dit, écoutez-le, tout le monde en tombe à terre. Il faut comprendre qu'on a marché avec crainte, puis ça plaît à Dieu quand on marche au Seigneur. On n'est pas digne de recevoir rien. Tu sais, on n'est pas digne. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Puis ça plaît à Dieu quand on s'approche de Dieu avec crainte, puis offrir un culte avec crainte et tremblement, avec piété aussi. Le mot piété veut dire être un homme pieux, c'est quelqu'un qui prie, un homme qui cherche la face de Dieu, quelqu'un qui est intéressé à marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Ça, c'est un homme pieux. Mais Dieu veut qu'on marche comme ça, puis en gardant de la crainte. C'est sûr qu'il y a d'autres passages qui disent que l'amour parfait bannit la crainte. Mais c'est pas la crainte de Dieu que ça bannit, c'est la crainte du châtiment de Dieu. Quand on marche dans l'amour et on a une relation avec lui, on n'a pas à craindre d'être châtié et d'aller en enfer parce qu'on est en communion avec. Il dit, a pardonné nos péchés et nos iniquités, sauf que continuer à garder une crainte respectueuse envers Dieu. Ça plaît à Dieu. Dieu trouve agréable ceux qui marchent avec humilité. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51:17. Dieu trouve ça agréable quand on marche avec humilité d'un esprit brisé. Faut faire attention de ne pas devenir orgueilleux dans le Seigneur. Là, on pense que tout, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est sûr que j'en puis tout. On puis tout, mais garde ta pensée que tu es en dessous, là, que tu es sous sa... Que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu trouve agréable ceux qui marchent par la foi. On l'a vu tout à l'heure, Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Des fois, on est chrétien, on est assis dans l'assemblée, on entend des promesses, puis il y en a qui saisissent par la foi, puis merci Seigneur pour ta promesse, puis là, par la foi, on y crée, puis par la foi, on l'attend. Puis c'est bon, Dieu trouve ça agréable quand tu marches par la foi. Mais quand tu es chrétien, fais attention aussi de ne pas venir froid dans la foi, puis que là, il n'y a plus une promesse que tu t'accroches, il n'y a plus une promesse que tu t'assis, puis ça ne plaît pas à Dieu si on ne marche pas dans la foi. Si on marche de manière agréable, c'est de saisir ses promesses. On prend l'exemple des 12 espions qui ont été envoyés dans terre promise. Il y en a 10 qui sont revenus déçus. Oh, il y a des géants là-dedans, puis il y a une multitude nombreuse. On avait de l'air des sauterelles à leurs yeux. Puis nous autres, on se pensait des sauterelles à leurs yeux. Puis ils disent, on rentre pas là. Tandis que les deux autres, ils ont dit, non, Dieu nous a promis qu'on aurait la victoire. Il a promis qu'il était avec nous autres, puis on va rentrer dans terre promise, puis on va toutes les massacrer. Parce qu'ils marchaient par la foi, puis ils marchaient d'une manière qui plaisait à Dieu. Puis s'il arrêtait, il aurait à gagner. Parce que le vie était sur la foi. Puis, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous avez des combats, des luttes, des problèmes dans vos vies, commencez à vous confier dans le Seigneur, comme notre frère a partagé dans le message qui venait de la part de Dieu. Je suis le même que quand il y a eu le déluge, puis je suis là aujourd'hui, puis je vais prendre soin de ta vie. Fais-moi confiance, puis je vais changer ta vie, puis tu vas marcher, puis tu vas avoir de la victoire. Dieu est là, puis il veut que tu marches par la foi. Seigneur, c'est vrai, à cette heure, je marche avec toi. Puis ça fait plaisir à Dieu. Dieu prend plaisir à nos louanges et à notre désir d'aider les autres. Hébreux 13, 15, 16, ça dit, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Quand notre sœur a partagé la parole qu'elle a eue dans son cœur, que Dieu entendait chacune de nos paroles, qu'on est en train de louer son nom, puis Dieu prenait plaisir à cela, Dieu y écoutait chacune de nos paroles qu'on dit dans notre temps de louange. On chante des chants, si on les chante en esprit, en vérité, on va penser à ce qu'on est en train de chanter, puis on va le chanter de tout notre cœur vraiment devant Dieu. Après ça, on continue à s'exprimer à Dieu avec des actions de grâce puis de la reconnaissance. Puis Dieu, il écoute chaque mot qu'on dit, puis il prend plaisir à ça. Continue à confesser le nom de Jésus dans les louanges. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom du Seigneur. Un sacrifice de louange. Dans l'ancien temps, il achetait un agneau, puis il le donnait en sacrifice. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'il veut. C'est un sacrifice de ta bouche, avec un esprit tourné vers le Seigneur, puis en train de rendre des gloires à Dieu, puis des merci Seigneur, puis Dieu agrée ces choses-là, puis Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ça fait plaisir à Dieu. Dans le même passage, ça dit, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Quand on parle de bienfaisance, c'est de faire des bonnes actions, des bonnes œuvres. Faites-en des bonnes œuvres, rendez des services aux autres, partout dans votre journée, que ce soit en dehors ou dans l'église, partout, êtes toujours en train de rendre des services aux autres. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices quand on est bienfaisant. Puis quand il nous parle aussi à la libéralité, ça a comme deux sens, au sens du mot de communion fraternelle, quand on est en communion ensemble, quand on recherche à être ensemble, ça fait plaisir à Dieu, puis aussi ça sous-entend le mot de contribution ou de don qu'on peut se faire ensemble, de s'entraider financièrement, c'est de la libéralité, puis Dieu prend plaisir à de tels sacrifices quand on est en train de se bénir les uns les autres, en recherchant à être ensemble, puis à se donner. Ça fait plaisir à Dieu, tout en n'oubliant pas de continuer à le louer. Alléluia. Dieu aime ceux qui donnent monétairement avec joie. 2 Corinthiens 9:7, elle dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on donne avec joie dans notre offrande, il faut le faire, oh, je suis obligé encore de donner. Non, donne avec joie, puis Dieu aime ça. Puis Dieu va te le rendre, il nous l'a promis. Ça fait plaisir à Dieu de voir qu'il y a du monde qui sont prêts à donner. Dieu voit tout ça, puis Dieu va nous le remettre. Dieu prend plaisir quand nous nous pardonnons les uns les autres. Matthieu 12, 7, ça dit, « Si vous saviez ce que ça signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. » Dieu prend plaisir quand le peuple de Dieu s'humilie puis se demande pardon, ou quand on est prêt à pardonner dans une situation, quand on se fait faire du tort. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ça veut dire que le contraire est bon aussi, et pas bon, je veux dire. Si tu ne veux pas pardonner, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Il y a plein de libertés qu'on reçoit dans le pardon. Quand on pardonne, la première qui se libère, c'est nous-mêmes. On se libère de quelque chose qu'on gardait et qui nous détruisait intérieurement. Dieu prend plaisir quand nous cherchons à libérer les gens de leurs souffrances. Isaïe 58, 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Quand on est occupé à vouloir aider les autres dans leur fardeau, je ne parle pas d'aller les critiquer, d'aller les écraser, d'aller les blaster, d'aller les juger. Non, quand on veut aider, Dieu prend plaisir à cela. Ça, ça fait partie du jeûne dans lequel il prend plaisir. Si je vois des problèmes, quand quelqu'un vit des problèmes, je peux m'offrir. Ma soeur ou mon frère, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Ça, ça fait plaisir à Dieu. Que tu sois prêt à libérer ce qui la lie, ce qui l'opprime, ce qui l'écrase, ce qui la démolit, en offrant ton aide. Dieu trouve agréable ceux qui s'occupent de leurs parents dans leur vieillesse. 1 Timothée 5,4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Tu sais, des fois, on part avec la pensée d'aujourd'hui, oh, on envoie nos parents, sont rendus, on les envoie dans les hospices. Ils vont s'arranger avec eux autres. Peut-être que la personne a veut y aller dans un hospice, peut-être. Où il y a quelqu'un qui se va prendre soin d'elle parce qu'on n'est pas capable, si on n'a pas le choix, si on, ça se comprend. Si la personne est bien malade, a besoin de soins 24/24, c'est pas pareil. Mais là, on parle dans le contexte qu'il y a des gens qui étaient, des personnes qui étaient veuves, ça veut dire qu'ils étaient tout seuls, il n'y a plus de mari pour s'occuper d'elle. Puis dans ce temps-là, si tu ne travaillais pas, cette journée-là, tu n'avais rien à manger. Puis la personne qui était veuve, chrétienne, pouvait être supportée par l'Église pour avoir la nourriture et les patentes. Mais là, Paul lui dit, s'il y en a qui sont veuves, ils peuvent être soutenus dans un autre passage. Mais d'un autre côté, il dit, s'ils ont des petits-enfants, mais qu'ils apprennent à exercer la piété envers cette personne-là, et qu'ils en prennent soin. Parce que c'est agréable à Dieu que les gens rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ça fait plaisir à Dieu quand on on redonne à nos parents des faveurs ou des choses qu'ils ont besoin. Parce qu'eux autres sont occupés de nous autres pendant 20 ans, 30 ans. Des fois, il y en a qui se font 70 ans. Il y en a qui sont rendus à 70 et continuent encore à s'occuper de leurs enfants. Ça serait moindre affaire que l'enfant commence à décider de s'occuper de son parent. Savez-vous que de marcher d'une manière agréable, ça l'attire la faveur de Dieu? Est-ce que j'en veux des faveurs de Dieu dans ma vie? Est-ce que vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie? Moi, je sais que si j'ai de quoi demander à ma femme, mais là, si je suis fin avec elle, mais là, je peux m'attendre à recevoir quelque chose. Puis si je suis pas fin, mais là, après, je vais lui demander de quoi. Je n'attire pas sa faveur quand je suis pas fin. Puis là, je vais lui demander de quoi, mais elle va-tu me le donner? Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Si je veux commencer à recevoir de ses faveurs, il faut que je commence à être fin envers lui, à faire des choses qui lui est agréable. Dans 1 Pierre 3, ça nous dit, au verset 10, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie puis voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, puis ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Est-ce qu'on veut que Dieu soit toujours content de nous, puis qu'il nous regarde toujours, puis tôt, ses yeux puis ses oreilles attentifs à nous autres, ou si on vit tout croche, dans la rébellion, puis dans le péché, puis à faire du trouble, puis que là, le Seigneur n'est même pas intéressé de regarder ça, ça pue, c'est pas d'une agréable odeur. Plus qu'on va vouloir faire les choses qui sont agréables à Dieu, plus que le Seigneur va être fier de nous autres, puis il va avoir ses yeux sur nous autres, ses oreilles sur nous autres, puis il va nous écouter à chaque fois qu'on dit quelque chose, qu'on demande quelque chose, puis le Seigneur va nous l'accorder. C'est une promesse de Dieu. La bénédiction puis la présence de Dieu auprès de ceux qui marchent. La bénédiction et la présence de Dieu est auprès de ceux qui marchent d'une manière agréable. Des fois, on le voit, des fois, dans certaines personnes, on dit, « Hey, ça, c'est une personne qui est bénie du Seigneur. » La paix, la joie est en lui. Tu vois que le Seigneur est avec lui. Le Seigneur répond à ses prières. Mais la bénédiction, la présence de Dieu est auprès de ceux qui marchent d'une manière qui est agréable à Dieu. Si je veux que Dieu commence à me bénir, à me faire couler ses bénédictions, à me répandre son esprit dans ma vie, à manifester sa vie à travers moi, puis que je puisse grandir spirituellement, puis que ça soit vu de tous, si je veux que ça se passe, il faut que je commence à marcher d'une manière qui est agréable. Pour ceux qui ne sentent pas à la hauteur, des fois ça peut arriver après avoir tout ce que je viens de vous dire là. Il y en a peut-être que vous dites, « Ah ben moi, je ne suis pas à la hauteur. Moi, je ne pense pas que je marche à une manière qui est agréable à Dieu. » Ou « Je pense que le Seigneur ne m'aime pas ou qu'il ne me veut plus à cause de ce que j'ai fait dans le passé. » On peut s'attendre au Seigneur à ce qu'il, quand on croit que Dieu nous fait un appel dans nos vies puis qu'il dit, je te donne cette alliance-là. Je veux écrire mes paroles dans ton cœur et dans ton esprit et dans ton cœur. Je veux faire une nouvelle alliance avec toi, une relation qui va se développer, puis qu'à tous les jours, tu reçoives de ma part, puis que tu vas pouvoir avancer, pouvoir être béni de ma part. On peut s'approcher de Dieu avec confiance, parce que Dieu fait encore son appel aujourd'hui. Dieu veut faire l'œuvre en nous de nous rendre capables d'obéir et de marcher selon sa volonté. Hébreu 13, il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qui vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Que Dieu vous rende capable et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Dieu se propose dans sa nouvelle alliance de nous l'écrire dans notre esprit et dans notre cœur et veut faire en nous, produire en nous d'être capable d'obéir puis de faire ce qui s'attend. Qu'on puisse marcher d'une manière qui lui soit agréable. Lui est capable de le faire en moi, que je marche d'une manière qui lui soit agréable. Si je rouvre mes yeux, quand on disait tout à l'heure qu'il y en a qui avaient le cœur insensible, puis ils avaient fermé les yeux, les oreilles, ça les empêchait de recevoir. Si je rouvre mes yeux, puis mes oreilles, puis je suis attentif à sa parole qui est annoncée et que je la reçois. Puis je dis au Seigneur, je veux, Seigneur, que tu viennes faire ton œuvre en moi. Viens créer ta parole dans mon esprit. Viens l'écrire dans mon cœur, puis viens me rendre capable. Je veux marcher d'une manière qui te soit digne, d'une manière qui te soit agréable. Si j'avais cette prière-là ce matin, le Seigneur veut le faire en chacun de vous, puis veut que vous marchiez dans cette bénédiction-là. Ça fait partie de la nouvelle alliance qu'on a en son Fils Jésus. Pendant que les musiciens vont s'avancer en avant, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à dire, « Oui, Seigneur, je veux que tu continues ton œuvre en moi. » Je veux te laisser me changer. Je suis prête à vouloir me laisser changer par toi. Je veux recevoir de toi ce que tu as à me communiquer pour que je sois capable de vivre d'une manière qui te soit agréable. S'il y en a qui n'ont pas encore fait le choix d'accepter Jésus comme votre sauveur pour être pardonné de vos péchés, je vous donne l'occasion. Ce matin, si vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur personnel, avancez-vous en avant, on va prier avec vous. Jésus va vous pardonner de vos péchés, puis va vous donner ce qu'il vous faut pour commencer cette nouvelle vie-là avec lui, selon cette nouvelle alliance. Puis s'il y en a, vous êtes déjà engagé dans la nouvelle alliance, mais que vous avez ressenti que vous l'aviez abandonné, que vous étiez détourné, que vous étiez refroidi, que vous étiez comme dans un temps de sécheresse spirituelle ou d'aveuglement, que vous ne ressentiez plus que Dieu est avec vous et en vous en train de produire cette œuvre-là. Avancez-vous en avant, on prie ensemble pour que votre vie continue à être changée conformément à ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Gênez-vous pas. C'est pas devant moi que vous avancez, c'est devant le Seigneur. Le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît notre situation ou notre état spirituel. On ne peut rien y cacher, on n'a rien à prouver aux autres. Mais si à quelque part je veux continuer à grandir, puis si je veux marcher d'une manière qui est digne du royaume de Dieu, avancez-vous. On va prier ensemble, on va demander au Seigneur de faire couler sa bénédiction dans vos vies. Le Seigneur voit ceux qui ont les yeux ouverts et ses oreilles attentives, puis qui ont dit, moi, je veux avancer, Seigneur. Grave-les tes paroles. Viens le faire. Alléluia. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus et dans le nom de toute l'assemblée qu'on vient devant toi, Seigneur. Parce qu'on le reconnaît, Seigneur, que notre cœur, souvent, il est froid. Notre cœur, souvent, il est tiède. Que notre cœur, souvent, il est dérangé ou il est attiré par le monde ou par le péché. Seigneur, je viens te demander pardon de notre égarement. On n'est pas mieux que nos pères. On n'est pas mieux, Seigneur, que ceux qui nous entourent. On compte encore sur ta grâce, Seigneur, ce matin, afin que tu viennes renouveler ton alliance. Cette alliance t'a commencé au jour où on t'a donné notre vie. On veut marcher dans tes voies, Seigneur. On veut marcher dans tes pas. Viens graver tes paroles dans notre cœur. Viens les graver dans notre intelligence. Et viens produire en nous, Seigneur, qu'on puisse marcher de manière que ce soit agréable. Communique cette grâce à tous ceux qui sont avancés ce matin pour recevoir de toi la force d'avancer. Que ta bénédiction coule sur chacun d'eux. Je te remercie de ce que tu es en train de faire, Seigneur. Et pour tous ceux qui sont assis dans leur banc, je demande, Seigneur, que ta bénédiction tombe sur chacun d'eux. Que tous, Seigneur, d'un même cœur dans cette église, qu'on puisse marcher ensemble pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton œuvre, dans la consécration, dans la sanctification, afin de voir ta main au milieu de nous, Seigneur. Merci de ce que tu vas faire. Oui, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.